En 1860, Frédéric Boucheron imagine ses premiers bijoux à motif dentelle. 10 ans plus tard, les nœuds de ruban en diamant apparaissent dans ses créations. Puis viendront les étoffes de mailles d'or, les cordons et les pompons en passement tridor. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir les liens entre ce monde d'apparat et la maison Boucheron. Vincent Mélan, Boucheron, True Stories. La soie, les diamants et Frédéric Boucheron. Toute l'enfance de Frédéric Boucheron s'était déroulée dans un univers de dentelles, de soie, de rubans et d'étoffes précieuses. En 1817, son père, Louis, avait ouvert au numéro 247 de la rue Saint-Honoré son commerce de rubans et d'étoffes. Simple mercier, il s'était découvert une passion pour les tissus rares et peu à peu s'était spécialisé dans la soie. En 1832, 2 ans après la naissance de son fils Frédéric, Louis Boucheron avait transféré sa boutique au numéro 18 de la rue des Fossés Saint-Germain-l'Auxerrois. Au-dessus de la porte était simplement mentionné « Boucheron, étoffe de soie ». Frédéric, adolescent, y avait découvert le satin brillant et un peu épais que l'on pouvait broder, la mousseline aérienne qui faisait de si beaux volants, le crêpe, quasiment infroissable, idéal pour les robes de mariée. La dentelle au fil de soie était la reine de cet univers léger et sensuel. Trois siècles auparavant, les Vénitiennes qui s'ennuyaient un peu lorsque leurs époux étaient sur mer avaient découvert ce procédé extrêmement délicat qui n'est ni de la couture ni de la broderie. Il consiste à tracer des motifs dans l'espace sans aucun support ou armature avec un fil de soie ou de coton extrêmement fin. Les motifs reliés entre eux par des nœuds du même fil composent une guirlande de motifs aériens. Les premières dentelles étaient arrivées à Paris avec les princesses italiennes de la Renaissance, Catherine et Marie de Médicis. Le roi Louis XIV en était fou. Toutes ses cravates et les poignets de ses chemises en étaient bordées. Inquiet devant les sommes immenses qui sortaient du pays pour acquérir des dentelles à l'étranger, Colbert, le ministre des Finances du roi Soleil, avait lancé des centres de production en France. Avec succès. Au début du Second Empire, la dentelle connaît une sorte d'apothéose, avec les points d'Alençon, de Chantilly, de Bayeux ou de Calais, célèbres dans le monde entier. La plus précieuse de toutes les dentelles, celle dont Louis Boucheron s'est fait une spécialité, est la blonde. Elle est créée à partir d'un fil de soie écru, parfois mêlé d'or ou d'argent. Jamais, dans toute son histoire, Paris n'a été à ce point la capitale mondiale de la mode. Les dentelles de l'impératrice. Depuis le mariage de l'empereur Napoléon III avec mademoiselle Eugénie de Montijo, le 30 janvier 1853, la ville est redevenue le centre de toutes les frivolités. Les détails de la toilette de la nouvelle impératrice le jour de la cérémonie à Notre-Dame ont été relatés dans les gazettes du monde entier. Sa jupe de velours blanc était entièrement recouverte d'un volant bouillonné en dentelle au point d'Angleterre. Son voile, retenu par un diadème de saphir et de diamant, retombait en plis sur ses épaules et sur son corsage brodé de diamants, disposé en brandebourg. Entre le palais des Tuileries et les boulevards, les boutiques de mode prospèrent. Au début de l'année 1858, Charles-Frédéric Vorte, un Anglais qui a fait toute sa carrière en France, ouvre un salon de haute couture au numéro 7 de la rue de la Paix. Contre toutes les traditions, il ne reçoit pas les commandes de ses clientes. Il leur impose un style qui change d'année en année selon son goût. Et en cette même année 1858, Frédéric Boucheron, qui a 28 ans, loue une arcade au Palais Royal et se lance dans la fabrication et le commerce de bijoux et de pierres précieuses. Nouveau venu dans le monde très fermé des joailliers, il abandonne à ses confrères les bijoux trop solennels, souvent destinés à montrer la fortune de l'homme qui les offre à son épouse ou à sa maîtresse. Frédéric aime passionnément les pierres, mais il les présente avec un style original qu'il suggère à ses clientes. Et ce qu'il a appris dans la boutique de son père ne le quitte pas. Il a trop aimé cet univers raffiné des étoffes pour l'abandonner en entrant en joaillerie. Dès 1860, 2 ans après l'ouverture de sa boutique, il intègre des motifs dentelles dans ses créations. Les archives de Boucheron conserve des dizaines de dessins de bracelets en diamant avec des motifs dentelles, tous plus précieux les uns que les autres. L'une de ses propositions les plus spectaculaires est un collier qui semble inspiré par les cols de dentelle que les reines de France du XVIIe siècle portent sur leurs portraits par Rubens. Le bijou a la forme d'un éventail. Une résille de diamants semble y avoir été cousue dans l'espace par un fil invisible. Même après la mort de Frédéric Boucheron en 1902, la dentelle demeurera un motif décoratif souvent utilisé par ses successeurs. Ainsi, en mai 1923, une cliente commandera un large bracelet en joaillerie, genre dentelle, ajusté, formant manchette, fermeture à pression, monture platine. Le ruban est un autre symbole de la toilette féminine qui va servir d'inspiration à Frédéric Boucheron. Les rubans de diamants. Sa souplesse permet d'introduire le mouvement dans une coiffure ou sur une robe. Sous la forme d'un nœud, il est l'ornement parfait à deux ou trois ou quatre boucles. Et c'est ce même mouvement qu'il va interpréter en joaillerie. En 1884, un saphir de 159 carats est serti sur un nœud de diamant au centre d'un collier vendu à la célèbre milliardaire américaine Mary-Louise Mackay. Le nœud simple est aussi le motif parfait pour composer une broche. Mais le nœud le plus extraordinaire jamais créé par Frédéric Boucheron est sans doute ce devant de corsage daté de 1893. Il est composé d'un seul nœud comportant 15 boucles de taille décroissante qui s'achèvent par deux rubans pendants. Comme la dentelle, le ruban et le nœud vont perdurer en joaillerie bien après la mort de Frédéric Boucheron en 1902. L'utilisation du platine qui se répand au début du XXe siècle va permettre de créer des montures de plus en plus fines et discrètes. Dans les années 1920, le serti de certains bracelets de diamants signés Boucheron sera tellement souple qu'on les surnommera les bracelets rubans. La qualité du travail des joailliers de Boucheron à la Belle Époque permet un autre exploit technique. Du ruban ou de la dentelle, Frédéric Boucheron va passer à l'étoffe elle-même. En travaillant avec des mailles d'or extrêmement fines, il parvient à créer une véritable étoffe précieuse. Ces bandes de tricot d'or sont le plus souvent nouées en écharpe ou cravate autour du cou des élégantes. Leurs extrémités sont toujours bordées de pampilles de diamants ou de perles. Le grand-duc Vladimir de Russie, oncle du tsar Nicolas II, achètera l'un de ses colliers en 1883 pour son épouse, la grande-duchesse Marie. Cette écharpe en maille d'or est bordée à ses extrémités de diamants, de perles blanches et de perles grises. 4 ans plus tard, en 1887, l'histoire vient bouleverser l'univers de la haute joaillerie. La toute jeune République française annonce son intention de vendre aux enchères la fabuleuse collection de bijoux et pierres précieuses, dites de la couronne de France. Ces joyaux ont été accumulés au fil des siècles par les rois et les empereurs français. La vente se déroule durant une semaine au musée du Louvre. Frédéric Boucheron est l'un des principaux acheteurs. Les diamants de la couronne. L'une des plus belles pièces présentées au catalogue est un large peigne de chignon serti de gros diamants blancs entourant un exceptionnel brillant rose. 9 aiguillettes de diamants sont suspendues à ce bijou. Les aiguillettes, aussi appelées ferrets ou pompons, sont l'un des motifs classiques de la joaillerie française. Au XVIIe siècle, elles sont représentées sur tous les portraits des reines, le plus souvent suspendues en pendentif, sur un collier ou une ceinture. Grâce à Alexandre Dumas, les ferrets sont même entrés dans l'histoire de la joaillerie et de la littérature française. Les 12 ferrets de diamants appartenant à la reine Anne d'Autriche sont au cœur de l'intrigue de son célèbre roman historique, Les Trois Mousquetaires. Au XVIIIe siècle, la mode change et les ferrets disparaissent. Mais ils reviennent en force au début du XIXe siècle, dans une version masculine et sur les uniformes militaires. Napoléon Ier, le plus célèbre de tous les souverains français, a conquis l'Europe grâce à son armée, les galons, les médailles et les décorations comptent parmi les récompenses qu'il distribue à ses braves. Les médailles sont épinglées sur des uniformes brodés d'or et chamarrées de cordons de fil d'or qui s'enroulent autour de l'épaule. Une des extrémités de ce cordon d'or est fixée sur la poitrine, l'autre s'achève avec un ou plusieurs ferrets dorés. Ces derniers maintiennent le cordon droit grâce à leur poids. Thank you. Lors de la vente des diamants de la couronne de France, Frédéric Boucheron achète l'un des plus gros diamants de l'aiguillette centrale du peigne de l'impératrice, une pierre taille marquise qu'il fait monter en bague pour l'offrir à son épouse Gabrielle. Deux autres pierres provenant de ce peigne arrivent chez Boucheron en 1899. Et la même année, Frédéric fait monter d'autres diamants provenant du même bijou sur un collier rivière qui fait partie de la corbeille de noces de la future Lady Harcourt, commandée par sa mère, Mrs. Burns. Depuis, l'aiguillette est restée un élément du patrimoine artistique de Boucheron. Elle revient régulièrement sur les créations de la maison, au hasard des modes et des envies des créateurs. Le plus souvent, elle est simplement en or, mais elle est parfois pavée de diamants ou de perles. Dans les années 1970, elle fait un retour marqué pour une commande spéciale concernant des colliers, des clips d'oreilles et même des boutons de manchette. Les cordons d'or sur lesquels sont fixées ces aiguillettes vont connaître un destin encore plus extraordinaire. La corde d'or. Pour Frédéric Boucheron, les cordons d'or sont une alternative originale aux maillons traditionnels des chaînes. Présentés en torsade simple, double ou triple, comme de la passementerie ou en tresse, ils deviennent colliers, bracelets ou pendants d'oreilles. Ces bijoux cordons vont connaître une telle gloire qu'ils vont se décliner sur des matières encore plus précieuses que l'or. Les torsades en fil de perles que l'on noue plusieurs fois autour du cou sont baptisées bayadères à la Belle Époque, sans doute aux références aux danseuses de la mythologie indienne. Dans les années 1960, les torsades de perles de turquoise, de corail ou d'améthyste reviennent régulièrement au hasard des collections. Ces cordons d'or ou de pierres précieuses peuvent même se décliner en broderie, directement sur le décolleté d'une robe, ses épaules ou même son corsage. Le joyau retourne ainsi vers son modèle d'inspiration, l'étoffe. Les deux matières, or et soie, se rejoignent et se confondent, exactement comme sur la toilette de mariage de l'impératrice Eugénie en 1853. Les broderies de son corsage en forme de brandebourg étaient faites de diamants. 2024 marque une nouvelle étape dans le parcours précieux qui unit la mode et les bijoux chez Boucheron. La collection du mois de janvier, imaginée par Claire Schwann, explore tous les symboles chers à Frédéric Boucheron.